Vous êtes toujours sur le studio Kalangou, monsieur Dan, bonsoir. Il est 18h, tout de suite à Le Journal, dans une présentation de Nefis Adom Sirfo. Au sommaire de cette édition, retour sur l'attaque d'une position militaire d'Abala mercredi dernier par des assaillants non identifiés. Nous parlerons ce soir de l'opération de riposte menée par les armées nigériennes et maliennes, ainsi que de la visite du ministre de l'Intérieur à Abala. À Difa, 150 repentis de Boko Haram ont été transférés hier dans les nouveaux camps situés à Gougoumaria, région de Difa. Dans ce journal, vous entendrez la réaction de la société civile nigérienne suite au retrait des États-Unis de l'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique, la COP21. Enfin, le magazine de ce soir sera consacré au contenu des articles révisés de la Constitution. Six membres des forces de défense et de sécurité ont été tués dans l'attaque menée avant-hier soir par des hommes armés non identifiés sur une position militaire d'Abala, région de Tillabéri. Les armées nigériennes et maliennes ont immédiatement riposté en engageant une vaste opération de ratissage. Les faits se sont déroulés non loin de la frontière avec le Mali, à Damadawaki.
Quelques heures après l'attaque, l'armée nigérienne, appuyée par l'armée de l'air, a engagé une riposte et une opération de ratissage. Selon des sources sécuritaires, ces opérations ont permis de neutraliser l'essentiel du groupe d'assaillants ayant mené l'attaque d'Abala. Le matériel emporté a été récupéré. Aussi, l'attaque a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres du jeudi 1er juin 2017. Selon BBC Afrique, six membres présumés du mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, accusés d'avoir pris part mercredi à cette attaque des positions militaires à Abala, dans la région de Tillabéri, ont été arrêtés. Toutefois, l'opération a fait six morts du côté des forces de l'ordre, trois Maliens et trois Nigérien. Depuis quelques mois, les positions militaires proches du Mali et du Burkina Faso sont la cible d'attaques des terroristes venus souvent du nord Mali.
Et suite à cette attaque d'Abala, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a effectué hier le déplacement de la dite localité pour constater les dégâts causés et assister à l'enterrement des six FDS tués. Dans son intervention, Bazoum Mohamed a souligné les dispositions prises par le gouvernement pour traquer les terroristes. Mohamed Bazoum, que je vous propose d'écouter.
Concitoyens, ce qui vient de se produire aujourd'hui ici à Bala s'est également produit à Bani Bangou, à Wanzarbe, et il y a de cela quelques jours à Bethelkoli. Il y a des dispositions que le gouvernement a prises. Voyez-vous, le nombre de véhicules que nous avons augmenté, des armes, nous avons également augmenté le nombre de militaires. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas atteint le résultat escompté. Nous allons renforcer les dispositifs et, plaise à Dieu, nous allons réussir avec la plénitude du miséricordieux. Je lance un appel à tous, gardez votre calme. Les deux véhicules pris pendant cette opération, nous les avons récupérés. Les autres, nous sommes à leur recherche et nous allons avancer jusque dans le territoire malien. Nous allons les traquer là-bas parce que toutefois que nous laissons ces bandits se réfugier sur le territoire malien en disant que c'est un autre pays, alors qu'ils profitent de cette situation pour venir nous poser des actes de barbarie et retourner de cette façon, il ne peut y avoir de solution.
Des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Je l'annonçais dans les titres, 150 repentis de Boko Haram ont été transférés hier dans des nouveaux camps situés à Gougoumaria, à environ 190 km de la ville de Difa. Le transfert a été effectué hier dans la discrétion totale aux environs de 4 heures du matin. Le dernier arrivé au camp de transit avant le transfert, un enfant de 14 ans, profitant de l'heure de distraction qui leur a été accordée, s'est échappé. Les recherches sont en cours pour le retrouver. Difa toujours, la directrice régionale de l'UNICEF Afrique de l'Ouest et Centrale était en mission dans la région où elle a effectué plusieurs visites de terrain. C'est le cas du camp des réfugiés de Garin Wazim et Kinjendi. Les discussions ont porté sur le punais problème d'eau et sur l'éducation et la protection des enfants issus de ces camps. Marie-Pierre Poiré au micro de notre correspondant Adam Baboukarna.
Lire les papiers, parler aux gens, c'est une chose, mais aller voir de près, c'est là qu'on comprend vraiment de quoi il retourne. Donc nous avons commencé la visite, nous étions dans un de ces villages hier, où la population initiale était d'à peu près de 1500 personnes et tout d'un coup 26 000 personnes. On commence par le commencement, quand les gens arrivent, pour survivre, il leur faut de l'eau. Nous sommes donc allés hier voir ce qui se passait dans ce domaine-là et comment un partenariat très bien articulé entre le gouvernement, qui a un rôle quand même de coordonnateur de la bonne volonté des partenaires, comment allons-nous utiliser les points d'eau pour multiplier de façon exponentielle l'accès à l'eau potable? Comment allons-nous aller pour cette option qui est de creuser un puits plus profond, de multiplier les bornes d'eau? Comment allons-nous distribuer l'eau à chacun, garantir l'hygiène? Et compte tenu du fait des chiffres actuels, il faut quand même continuer les efforts et choisir les meilleures options techniques, mais aussi économiques.
Marie-Pierre Poiré, directrice générale de l'UNICEF Afrique de l'Ouest et Centrale. De la région d'Agadez, les migrants candidats au départ sont confrontés à de multiples dangers. Parfois, ils ont affaire face à la malhonnêteté et l'inconscience meurtrière de certains passeurs qui les abandonnent en plein désert. Comme cette histoire qui s'est passée ce mardi passé, le récit avec notre correspondant Moussa Maman.
Dans la soirée du mardi 30 mai 2017, des migrants au nombre de 6, 2 Nigériens et 4 Guinéens de retour de Libye ont été abandonnés par leurs chauffeurs à 5 km d'Agadez. Deux sont grièvement blessés, dont un est présentement dans les commandes au CHR d'Agadez. Les malheureux ont été secourus par les gendarmes en poste à Touria, village situé à 80 km d'Agadez. En ce moment, les forces de défense et de sécurité sont à la recherche des passeurs. Écoutons les témoignages de l'un des blessés, Youssouf Akiné, de nationalité nigérienne.
On vient de Libye, en venant ici sur Agadez, et la voiture qu'on était avec eux nous a fait tomber sur la voiture, et le chauffeur il a pris la fuite et nous a laissé en plein désert. Malheureusement qu'il y a les autorités, et les autorités nous ont évacués de la tourée 80 km d'Agadez. Ils nous ont évacués jusqu'à l'eau. Déjà, on a perdu beaucoup de sang, on est au nombre de 6. Oui. Deux Nigériens et les 4, c'est des Guinéens. La voiture, quand les gens sont descendus, et puis lui, il a pris la fuite, le chauffeur. Il a continué la voiture lui seul. Ils ont pris tous nos bagages, ils n'ont rien laissé pour nous. Ils ont pris la fuite avec nos bagages. Actuellement, maintenant, nous, on n'a rien, on n'a pas nos bagages.
Depuis l'entrée en application de la loi de 2015 réprimant le trafic d'êtres humains, les passeurs tentent d'éviter les patrouilles de police en empruntant des voies détournées, moins fréquentées et donc plus dangereuses pour acheminer les migrants clandestins. Moussa Maman depuis Agadez pour les studios Kalangou.
Aux États-Unis d'Amérique, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris dit COP21 sur la lutte contre le réchauffement climatique. Cet accord avait été signé par son prédécesseur Barack Obama en 2015, selon le coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le développement durable, Issa Garba. Cette décision du président américain n'est pas du tout surprenante. On l'écoute.
En ce qui concerne les conséquences, il faut prendre dès les dispositions transitoires. Il est dit que après la signature et la mise en vigueur de l'accord de Paris, aucun pays ne peut se retirer qu'après 4 ans. Et 4 ans, et effectivement, on a fait ça parce que les gens avaient déjà l'image que Donald Trump sera élu et il a un mandat de 4 ans. Ça, c'est juste une annonce qu'il fait. Mais juridiquement, c'est contraignant parce que Obama l'a signé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Macron a dit qu'il n'y aura pas une renégociation. Et on ne peut pas renégocier parce que le seul accord qu'on peut avoir ambitieux, contraignant, c'est l'accord de Paris. Parce que l'accord de Paris s'impose même au Niger qui ne produit même pas 0,01% d'émissions de gaz à effet de serre. Et le Niger, comme je l'ai dit, a fait ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national, qui est sa contribution pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc un pays comme le Niger, non désérialisé, qui s'engage à réduire et malgré sa faible progression au développement, accepte qu'on lui impose cet accord de Paris. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui les États-Unis qui vont vouloir se retirer.
Propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Et puis en bref, parmi les décisions prises par le Conseil des ministres d'hier, figure le limogeage de Kamed Abdoulaye, directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Il a été remplacé par Madame Ousmane Fatouma Saleh, cadre de l'information. Le départ de Kamed Abdoulaye et son secrétaire général était l'une des revendications des étudiants de cet institut qui était en grève ces derniers temps. Célébration le 31 mai dernier de la date anniversaire de la naissance de Jean Rouge, considéré comme le père fondateur du cinéma nigérien. Ingénieur de formation, Jean Rouge était également ethnologue et cinéaste. Olivier Amarceau, chargé de programmation et de production du CCFN, détaille les activités prévues autour de la célébration de cet anniversaire.
La prochaine étape de notre hommage à Jean Rouge pour son centenaire, ce sera en novembre avec l'inauguration d'une exposition. C'est une exposition qui va avoir lieu aussi au Musée de l'Homme à Paris. Donc nous aurons la même exposition à Niamey. Ensuite, le gros point fort de ce centenaire, donc c'est la semaine du 11 au 16 décembre. Donc là, on va inviter plusieurs personnes qui ont travaillé avec Jean Rouge. Donc on va avoir Serge Moati, qui est un réalisateur et producteur assez connu en France et qui a commencé véritablement sa carrière au Niger. Il a été l'assistant Jean Rouge, il a tourné 5 films au Niger. On va accueillir Françoise Foucault, qui est donc elle aussi dans le comité du film ethnographique et qui a été l'assistante et la secrétaire et la complice de Jean Rouge pendant 35 ans. Et donc, il va pouvoir retrouver ses petits camarades de jeu et notamment Moussa Hamidou, qui a été le preneur de son de Jean Rouge pendant 44 ans.
Nous sommes dans la première décade du mois béni de Ramadan, un mois divisé en 3 décades, 3 périodes de 10 jours. Alors, quelle est l'importance de cette première décade du Ramadan? Question posée au docteur Boubacar Seydou Touré, secrétaire général de l'Association islamique du Niger, qui répond au micro de Moutari Mahmadou.
Le mois du Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade consiste à s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment s'approcher d'Allah? C'est à travers les zikr, les invocations, c'est à travers les prières, multiplier les prières nocturnes, c'est à travers la lecture du Coran et surtout de multiplier les bienfaits, les bonnes œuvres. Voilà l'importance de la première décade. C'est pourquoi? C'est pour s'approcher d'Allah. Le comportement du mois du Ramadan, c'est un comportement exemplaire. L'islam l'a toujours demandé, pas au mois du moment, dans le mois du Ramadan seulement, mais durant l'existence, durant toute sa vie. Le musulman doit être un être humain exemplaire. Pendant le mois du carême, le musulman doit gêner sa bouche, sa langue, ses yeux, ses oreilles, ses pieds et même ses mains.
Place à présent à la partie magazine de cette édition, le ministre de la Justice, Mourou Amadou, a transmis il y a quelques semaines une lettre au nom du gouvernement pour demander la révision d'un certain nombre d'articles de la Constitution. Ce projet a été adopté mardi dernier par les députés de la majorité. Ceux de l'opposition n'ont pas pris part aux travaux de la plénière. Explication des points saillants avec Habibou Garba.
La réforme porte sur l'article 47, alinéa 5. Il disposait, dans sa rédaction ancienne, que c'est la Cour constitutionnelle qui contrôle la régularité des opérations de scrutin et en proclame les résultats définitifs. Dans sa rédaction nouvelle, c'est une loi organique qui précise désormais les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Quant à la révision de l'article 48, elle a pour conséquence d'allonger les délais pour l'organisation du premier tour du scrutin en vue de l'élection du président de la République, au moins 90 jours au lieu de 30, au plus 120 jours au lieu de 40 avant la date d'expiration du mandat du président en exercice. De l'article 53, alinéa 7, il est procédé à une nouvelle élection présidentielle 40 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'article nouvel, lui, parle de 90 jours au moins et 120 jours au plus. Article 59, alinéa D, ancienne version, indiquait qu'on ne pouvait pas procéder à une nouvelle dissolution du Parlement dans les 24 mois qui suivent les élections législatives. Selon le nouvel article 59, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, une nouvelle Assemblée est élue 60 jours au moins, 90 jours au plus après cette dissolution. Enfin, l'article 99 A1. Nouvelle alinéa, libellé comme suit. Le régime électoral du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales est fixé par une loi organique. Il en est de même pour les référendums. Après le vote du mardi 30 mai 2017, le Conseil des ministres d'hier a également examiné une proposition de loi relative à la modification de la Constitution du 25 novembre 2010 en ses articles 84 et 173, introduite par 4 députés nationaux. Aucune information sur ce qui va être révisé, mais l'article 84 a trait aux conditions d'éligibilité des députés, comme les droits civiques, politiques, inscription sur les listes, ou encore la loi organique qui fixe le nombre et autres avantages ou vacances des sièges. L'article 173, lui, précise que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Habib Garba, Studio Kalangou.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.